Je disais, j'ai demandé à Pierre de développer un peu plus le pourquoi l'accès au temps, à la visibilité du temps par les horloges avait été un des éléments qui, selon lui, avait favorisé l'industrie, l'innovation, la création en Occident par rapport à la Chine qui avait gardé le temps uniquement pour ses administrations. C'est bon.
Oui, alors je donnais cet exemple-là. Je vais. Oui,
Oui,
je donnais
gardez-la, vous
donc
gardez-la.
là. Oui, là, vous m'entendez là. Je donnais cet exemple-là, notamment comme un exemple de la moindre inhibition par rapport à l'innovation et au changement. C'est-à-dire, on le voit avec la poudre. La poudre a eu quand même des effets assez négatifs aussi. Mais elle montre bien que la question ne se pose pas en termes de refus de l'innovation, notamment administrée par une administration comme l'administration chinoise, qui, contrairement à l'image qu'on en donne, était une administration intelligente et plutôt assez compétente, mais animée de l'idée de l'équilibre. Donc, elle voyait bien que la mesure du temps, c'est dans une certaine mesure le rythme donné à toute l'activité collective. L'activité collective doit être régulée dans son optique, et donc le temps doit être contrôlé par l'administration. En Occident, on était sur l'idée complètement décentralisée, que chacun l'intériorise et qu'il n'y a aucune raison de refuser l'innovation technologique elle-même. Il n'y a aucune innovation technologique qui a été refusée, où que ce soit, dans quelque domaine de ce fait, du côté occidental. À ce à quoi s'est ajoutée, bien entendu, la structure beaucoup plus décentralisée du pouvoir en Occident, qui lui-même aussi a un certain lien avec le christianisme, dans la mesure où, quand l'Empire romain d'Occident s'est effondré, la seule autorité qui est restée, c'est l'Église, mais l'Église n'a pas pris un rôle politique plein. Elle a pris un certain rôle politique, mais elle n'a pas pris le rôle du politique. Et le politique était complètement décentralisé. Et en fait, le politique est resté décentralisé en Europe jusqu'à aujourd'hui, puisque l'Europe est divisée entre plusieurs dizaines de pays indépendants, certes réunis dans l'Union européenne, mais pas dans un empire. L'idée d'empire étant une idée qui a toujours fasciné les intellectuels, parce qu'intellectuellement, c'est plus satisfaisant de se dire on prend une formule unique. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. C'est d'autant moins le cas que la seule unité véritable, elle est religieuse et que donc elle est ailleurs. Et elle ne fonde pas un État théocratique. Il n'y a pas d'État théocratique. Alors, l'autre aspect, évidemment, par lequel le temps peut jouer, c'est que le temps, ensuite, rythme l'activité quotidienne, est une industrie, et ainsi de suite. Donc, il y a un tas d'effets pratiques du temps. Mais les effets pratiques du temps dans la vie économique ne se feront sentir que progressivement. Le premier effet qui joue au départ, c'est l'autonomie assurée par une technologie et qui ne pose problème à personne.
Okay, merci. Pardon, je suis sur mon téléphone. Merci beaucoup.
Oui, j'entends bien.
C'est vrai que je sais que c'est une conférence très dense, très ramassée sur le sujet, donc il faut aussi le temps que ça.
De digestion.
Moi, j'aurais une question. Tu relayes ensuite auprès
Ouais.
de notre interlocuteur.
Tout à fait.
Il s'agit de la chose suivante. Je sais qu'on verra normalement, si j'ai bien compris, un spécialiste de la finance islamique. Et en fait, de ce qu'on en connaît très sommairement, la finance islamique, c'est aussi le refus de l'intérêt de l'argent, le respect d'un certain nombre de lois éthiques, etc. Et donc, finalement, à gros traits, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir le point de vue d'un quelqu'un qui applique d'un point de vue chrétien. Quelle est la différence, quelles sont les différences à grands traits qu'il pourrait nous donner par rapport à cette finance islamique vue de son point de vue?
Oui, merci beaucoup. La question qui est importante et en même temps d'actualité. La différence, c'est la différence qu'il y a entre le christianisme et l'islam dans l'approche normative. L'islam contient une loi, et donc contient une loi au sens juridique. La charia est une loi, et donc il peut y avoir des tribunaux qui l'appliquent. Et le grand reproche que faisaient les musulmans aux chrétiens au Moyen Âge dans les débats, c'était de dire, vous n'avez pas de loi. Au moins, les juifs ont une loi. Vous n'en avez pas. Vous avez un certain nombre de grands principes moraux et c'est tout. Et ça se traduit dans notre domaine. C'est-à-dire que, par exemple, la condamnation du prêt à intérêt est une ressemblance, indéniablement. Et la différence, c'est qu'en islam, la condamnation du prêt à intérêt est juridique. C'est-à-dire que c'est parce qu'elle a été interdite par Dieu, à travers le texte du Coran, de la Sunna, et puis ensuite le développement des hadiths, etc., et puis le développement des docteurs, mais fondamentalement parce que des préceptes clairs et obligatoires ont été donnés. Cet élément joue un peu dans le rappel des textes bibliques, mais quand vous regardez les textes des médiévaux, c'est toujours des raisonnements. C'est-à-dire, les principes chrétiens sont des principes éthiques généraux, mais après, il faut élaborer. Dans un certain nombre de cas, il y a des réponses qui sont données, mais elles sont très très générales. Par exemple, quand saint Thomas raisonne sur le juste prix, il prend l'article du Décalogue disant « tu ne voleras pas ». Alors évidemment, le « ne voleras pas » est un principe posé par Dieu, mais il n'y a que ça. Après, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Alors là, il faut raisonner sur les situations. Tandis que dans le cas de l'islam, c'est beaucoup plus élaboré dans le cadre même de la loi. Et donc, le résultat, c'est qu'effectivement, on a un mécanisme qui, même quand il ressemble, comme ça a été le cas, le prêt à intérêt, en réalité, ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc, la question va être constamment en islam de demander à un expert, qui est l'équivalent de notre professeur de droit, plus que d'une autorité religieuse pure, c'est un expert religieux, bien sûr, mais c'est un expert qui va dire, à son avis, si le montage est halal, c'est-à-dire si effectivement, il est cohérent en jurisprudence, dans une logique jurisprudentielle, avec les principes posés. Tandis que si vous allez demander, si vous reprenez le cas chrétien, vous allez avoir, même dans le cas le plus explicite, qui est celui de la doctrine sociale de l'Église catholique, vous allez avoir une autorité, mais qui développe des principes assez généraux, et il est très clairement dit que le magistère est compétent sur les principes moraux. Mais le magistère n'est pas compétent pour vous donner des instructions sur ce qu'il faut faire dans un cas pratique. Et donc, si savoir si un montage financier est licite ou pas, le pape peut donner son avis, évidemment, mais en fait, c'est pas contraignant, ça n'a pas de valeur immédiate. En tout cas, il n'y a aucun mécanisme juridique qui implique sa mise en œuvre. Et donc, c'est vraiment deux approches assez différentes, même si une partie des points de départ sont évidemment communs, y compris de soucis moraux, d'ailleurs, qui peuvent être communs.
Conférence sur la finance islamique, c'est pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Hein. Alors, à votre rentrée, effectivement. Ouais.
D'ailleurs, il y a des gens qui parlent d'une finance catholique. Ça peut être à la fois vrai et faux. C'est faux si on a fait le pendant de la finance islamique. La finance islamique, c'est une finance qui vous dit, voilà, il y a des règles, on les connaît, nous allons les appliquer le plus strictement possible. Une finance catholique, ça va de dire, je m'inspire des principes moraux et je veux les développer, mais je le fais sous ma responsabilité. Et un autre pourra avoir une optique différente sur tel ou tel point. Il ne va pas agir de la même manière.
Quelle est la réalité aujourd'hui de la finance, du développement de la finance éthique? Ça représente quoi? Est-ce qu'il y a une finance spécifique éthique ou est-ce qu'il y a des principes éthiques qui infusent petit à petit dans la finance? Enfin, est-ce que vous avez une idée de la photo qu'on pourrait faire sur ce sujet-là?
Ben, je dirais le domaine où c'est le plus clairement mis en œuvre publiquement, c'est l'investissement. L'investissement financier, s'entend, qui est effectivement décisif, parce que par l'investissement, vous envoyez des signaux sur les marchés, aux entreprises, à leurs dirigeants, et si vous êtes suffisamment nombreux, ils en tiennent compte, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est là où c'est le plus sensible. Ça existe aussi, dans une certaine mesure, dans le fonctionnement des institutions financières, mais c'est quand même beaucoup moins impressionnant, c'est moins qu'on puisse dire. En revanche, sur l'investissement, ça l'est plus, y compris parce que l'investissement est en un sens plus démocratisé. C'est-à-dire que dans l'investissement, il y a certes des grands gestionnaires, comme BlackRock et autres, qui gèrent des sommes absolument abyssales, colossales, mais c'est l'argent de gens ordinaires. C'est que ça passe par des compagnies d'assurance et d'assurance vie, ou que ça passe par des fonds de pension qui, en France, sont peu développés. En fait, il y a des caisses de retraite quand même qui ont de l'argent, mais dans des pays anglo-saxons, aux Pays-Bas ou ailleurs, en Asie, les fonds de pension sont tout à fait énormes, les actionnaires majeurs. En dernière analyse, c'est l'argent de gens ordinaires, de gens chacun de nous. Je veux dire. Donc, il peut y avoir une pression qui s'exerce de ce côté-là. Et c'est d'ailleurs évidemment là-dessus que ça a pu prospérer dans une certaine mesure. Alors, l'effet principal, c'est évidemment des fonds qui se présentent comme fonds éthiques et qui constituent maintenant une proportion encore difficile à apprécier parce qu'il faut évidemment mesurer le degré de réalité éthique du souci, sans compter évidemment la divergence que vous pouvez avoir sur les conclusions éthiques. Mais déjà, le degré de souci peut être très différent. Et mettons que ça puisse monter jusqu'à 10% ou de 20%, ce qui n'est pas rien parce que les marchés sont sensibles. Donc, ce souci, les sociétés cotées en bourse l'entendent. Et c'est ce qui fait qu'ils développent un discours, alors qu'il peut être hypocrite, hein, bien entendu, mais qu'ils développent un discours montrant une certaine sensibilité à ces questions. Là, le domaine, évidemment, où c'est le plus visible, c'est le E de ESG, c'est-à-dire l'environnement. Et dans l'environnement, c'est la question du réchauffement. Mais vous avez, par exemple, des pressions très fortes pour l'abandon de combustibles fossiles. Donc, à partir d'un moment, à certains moments, il devient difficile pour un fonds de détenir des actions de société qui ont une activité, par exemple, dans le charbon, significative. Vous pouvez l'avoir dans le pétrole. Vous avez vu là, un geste tout à fait symptomatique de Total, notre compagnie indéniablement pétrolière au départ, qui veut s'appeler Total Energy en développant l'idée qu'elle est compétente multi-énergie. Donc, sur les énergies fossiles, comme évidemment à l'origine avec le pétrole, mais aussi sur les énergies renouvelables et toutes les énergies que vous pouvez imaginer. On voit bien que donc, ce souci dans la société s'est traduit au moins par un discours au niveau de Total et un discours dont on pourra ensuite vérifier un certain degré d'implication. Ce n'est pas nécessairement... L'investisseur de base ne sait pas nécessairement exactement ce que fait Total ici ou là, mais il peut voir quand même dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, quel sera son mixte d'activités, qui est peut-être beaucoup moins dans le pétrole ou autrement que ce qu'il était dans le passé. Donc, ça existe, ça se développe de manière non négligeable. Encore une fois, de manière différenciée, hein, c'est-à-dire environnement de façon assez dominante, avec évidemment ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire de peindre en vert un peu n'importe quoi avec un discours, parce que c'est toujours pareil. Dès que vous avez un souci éthique, vous avez le risque de l'hypocrisie, de la récupération. Ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas être éthique. Mais simplement, il faut savoir que c'est toujours possible. Donc, il faut en permanence, évidemment, vérifier et mettre les gens face à leurs promesses. Mais il vaut mieux quelqu'un qui fait des promesses dans un sens qui est meilleur et dont on va essayer de voir s'il les met en œuvre effectivement, que quelqu'un qui vous explique, il n'en a rien à fiche et que ce qui compte, c'est de maximiser son pognon, point à la ligne. Donc, il y a un côté relativement encourageant là-dessus. Alors, bien entendu, cette vague-là, après, peut être compatible avec des comportements très différents et moins significatifs dans d'autres points déjà de l'environnement, comme la disparition des espèces ou la pollution, etc., et qu'il est un peu moins dans le social aussi, parce que social, ça peut vouloir dire des choses assez variées, et il peut laisser donner une importance démesurée à des thèmes à la mode. Bon, il est évident que dans le monde anglo-saxon, toutes les idées de genre aujourd'hui sont tout à fait centrales. Donc, elles vont jouer un rôle important dans le S, plus que d'autres aspects qui peuvent être quand même un peu plus significatifs. Alors, il y a un souci, par exemple, de contraindre les grandes entreprises, non seulement à traiter convenablement leur personnel dans les pays en développement, mais qu'ils regardent aussi ce que font leurs sous-traitants. Parce que vous comprenez, si vous êtes vertueux parce que vous avez une poignée d'employés et que vos sous-traitants maltraitent les gens, ça devient évidemment très hypocrite. Le G de gouvernance, la manière dont ça fonctionne, etc. Mais comme vous voyez, si vous revenez à la tradition chrétienne et la pensée sociale, vous avez des domaines où le souci est peu répandu. La notion de juste prix n'est pas extrêmement populaire dans le discours savant, dans le discours public. Mais elle est populaire dans la population. Les gens, quand ils ont le sentiment de payer trop, on dit « j'ai été grugé ». Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire C'est pas, il y avait un prix de transaction et donc je l'ai accepté. Non, c'est, bon, je l'ai pris parce que je n'avais pas le choix, mais je, c'est pas correct, c'est pas juste. Donc il retrouve ce vocabulaire-là. Ça peut être vrai aussi dans la manière dont l'entreprise traite ses fournisseurs, dans la qualité des produits qu'elle produit. Vous faites un produit en organisant une obsolescence organisée. Quand vous regardez en dernière analyse, vous êtes un voleur, en réalité. Donc, vous ne rendez pas à la société le meilleur service que vous pouvez lui rendre. Tout ça à profit identique. Mais un profit, vous avoir un profit acquis de manière tout à fait éthique et un autre qui l'est un peu moins ou même pas du tout.
J'aurais encore une question, si vous permettez. On a parlé beaucoup ces dernières années d'un revenu universel, de la mise en place d'un revenu universel, pendant qu'on voit en même temps se développer notamment la mise en valeur du bénévolat, qu'on pourrait mettre en parallèle, et pendant que dans l'Église aussi, on parle notamment d'une économie du don qui se développe. Est-ce que tout ça, c'est le recyclage de vieilles idées sous une nouvelle forme, ou c'est effectivement les prémices d'un avènement d'un nouvel ordre économique, en quelque sorte?
Mais comme toujours dans ces cas-là, il est évident qu'il faut faire une analyse de la situation pour voir quel peut être le bon ou le mauvais impact au lieu de caractériser une décision de manière abstraite. Le revenu universel, indéniablement, ne serait pas développé comme thème s'il n'y avait pas eu, d'un côté, la pratique des États social-démocrates avec ce qu'on a pu appeler comme sécurité sociale, et d'un côté, et d'un autre côté, la question que posent les technologies et leur évolution, plus la mondialisation aujourd'hui, avec le problème de savoir si ça donne assez d'emplois à tout le monde et s'il ne faut pas redistribuer autrement les fruits de l'économie. Là, il est clair, dans la pensée chrétienne et en général d'ailleurs, il y a des opinions totalement variées. Il n'y a pas une réponse éthique évidente et naturelle. La seule réponse éthique, c'est de se dire « je ne peux pas me désintéresser quand je vois des personnes qui, d'un côté, n'ont pas de revenus suffisants leur permettant de vivre et de l'autre côté, ne sont pas insérées dans la société. » Ça, c'est le souci éthique. Comment le traduire après? Alors, il peut y avoir des choses très, très variées. À titre personnel, moi, je suis très réticent sur le revenu universel parce que je reste sur cette idée que dans une société comme la nôtre, sauf cas, évidemment, de handicap, maladie ou autre, le travail est le moyen d'insertion, le réel dans la société, où la personne non seulement se trouve dans un cadre social avec d'autres personnes ensemble, à faire quelque chose ensemble, mais en plus donne quelque chose à la société, et n'est pas uniquement à recevoir. Or, il y a plus de dignité à échanger, à donner, à recevoir, qu'à rester les mains tendues pour recevoir, sauf encore une fois quand on ne peut pas faire autrement ou dans des moments difficiles. Donc, moi, je suis plutôt réticent, mais c'est une question intéressante. Le pape François, il y a quelques années, était très contre, et là, il a parlé favorablement du revenu universel. Donc, comme vous voyez, on peut changer d'avis sur le sujet. Alors, le don, ça, c'est beaucoup plus complexe, parce que dans le contexte chrétien, le pape Benoît XVI a évoqué l'idée que le don doit jouer son rôle, non seulement en général dans la société, ce qui est évidemment un thème chrétien ancien, mais aussi dans l'activité économique ordinaire. Je pense que dans le principe, il a parfaitement raison. C'est-à-dire que je pense qu'une entreprise, par exemple, ne pourrait pas fonctionner si chacun était en permanence à appliquer ce qui a marqué dans les manuels d'économie politique et à calculer ce qu'il donne et ce qu'il reçoit pour pouvoir maximiser ce qu'il reçoit, minimiser ce qu'il donne, et ainsi de suite. Dans une entreprise, plus ça fonctionne comme une communauté, non seulement c'est plus satisfaisant pour les personnes, je pense que le résultat est meilleur, c'est-à-dire que quand je vois le voisin, je lui donne un coup de main, je lui donne un coup de main gratuit, je lui fais un don. Je sais que, bien entendu, ce n'est pas un don totalement désintéressé, en ce sens que je m'attends bien à ce que, en cas de besoin, il pourra éventuellement me donner un coup de main. Et c'est quand même un geste de solidarité, c'est un geste vers l'autre et un geste de don. Donc, ça me paraît important de souligner. En même temps, bien entendu, certains cultivent l'utopie d'une économie entièrement fondée sur le don, ça me paraît anthropologiquement totalement invraisemblable. C'est-à-dire, l'être humain étant ce qu'il est, il y a des ressorts très puissants qui vont le faire agir dans un sens qui va évidemment donner une importance première à son intérêt personnel, ça existe aussi. Ce n'est pas exclusif comme dans la théorie économique, je dirais, libérale, caricaturale, mais c'est quand même un ressort extrêmement puissant. Et si on ne le joue pas, l'utilise pas d'une manière ou d'une autre, on n'aura probablement pas un résultat satisfaisant. J'ajoute qu'il y a encore un autre domaine immense qui est celui du travail fondamental pour la société, ni reconnu, ni rémunéré, dont le plus évident et le plus connu est le travail domestique. Vous savez que des gens ont fait des calculs pour essayer de calculer quel serait l'équivalent marchand en termes de valeur du travail domestique. Donc, même avec des hypothèses très très prudentes, en rémunérant le travail domestique au SMIC et en comptant prudemment les heures, ça fait 30 à 40% du PNB. Autrement dit, il y a une espèce d'iceberg avec une partie de l'économie qui est souterraine et qui n'est pas connue, pas reconnue. C'est un travail de don, bien entendu. Là aussi, le travail domestique, comme on sait, est largement féminin, mais ce travail domestique il n'est pas totalement gratuit en ce sens que la personne en question attend un certain retour, d'une part de son conjoint, de ses enfants un jour ou quoi que ce soit. Il est quand même largement gratuit au départ, il n'est pas calculé comme l'est une activité économique. Et donc, là, on voit bien que ça joue un rôle essentiel, parce qu'on fabrique des enfants et on les élève gratuitement. Or, c'est vital pour l'économie. Donc, l'économie, sans ce continent de dons essentiels, n'existerait pas. C'est plus difficile, mais c'est quand même faisable. C'est quand même faisable aussi. Tout simplement parce que c'est pas facile de mesurer. Alors, il y a des domaines où c'est assez faisable. Je prends par exemple la pollution d'une usine bien déterminée, peut être observée et mesurée, et elle est beaucoup plus difficile que ce qu'elle était autrefois et beaucoup plus risquée pour l'entreprise. En revanche, dans un certain nombre d'autres domaines, c'est beaucoup moins évident. C'est si vrai que régulièrement, par exemple, les fonds d'investissement demandent au pouvoir public de clarifier les critères parce qu'ils sont même eux qui ont des moyens tout à fait considérables ont du mal à juger les situations. Ce n'est pas choquant d'ailleurs, parce que dans les choses qui sont technologiquement compliquées, il n'est pas toujours facile de mesurer. De notre côté, on peut vouloir réagir à ça en intensifiant les normes. Quand on est sûr de soi sur les normes, c'est bien. Quand on est moins sûr de soi, on risque à ce moment-là de mettre un carcan et de retomber à ce moment-là sur ce qu'on avait vu avec l'administration impériale chinoise. Ce qui fait finir par avoir un souci en soi éthique, parce que les soucis de ces mandarins étaient éthiques en soi, mais après on bloque la société. Et donc il y a un équilibre judicieux à trouver qui consiste précisément à être capable de juger le plus précisément les situations. Et c'est vrai que c'est plus difficile que ce n'était le cas à une époque, bien sûr, parce qu'il y a cette pression et puis cette réglementation.
Et votre appréciation des labels
sur les fonds d'investissement ? Les labels, c'est typiquement quelque chose qui peut être bon ou mauvais. C'est une aide évidente, c'est-à-dire que quand vous avez un label, ça veut dire que quelqu'un chargé de cette fonction-là, a mis son autorité sur l'idée qu'un certain nombre de principes, a priori, on pourra supposer qu'ils sont bons, sont respectés. Donc, le point de départ est plutôt sympathique. Après, ça peut être négatif de deux manières. D'abord, évidemment, si le label est mal fait, c'est-à-dire qu'il laisse passer des trucs qui ne sont pas bien ou au contraire, il est trop rigide là où il ne devrait pas l'être. Ça peut être un premier défaut. Et le deuxième défaut, c'est que ça peut habituer aussi à se dispenser de faire soi-même ou de faire ailleurs autrement ou de se mettre ensemble ailleurs pour avoir des moyens alternatifs en se confiant trop à un label qui n'a jamais la science infuse, donc qui peut se tromper et autrement se tromper avec l'évolution du temps, dans le temps de la technologie, et d'autre part, les moyens trouvés par les gens sujets à ces labels pour essayer de les contourner. Parce que moi, je peux vous dire que dans le domaine financier, qui est extrêmement réglementé, c'est quand même aussi un domaine où il y a constamment des gens qui trouvent des moyens pour le contourner. Il y a un proverbe italien qui dit « Fatta la legge, fatto il ladro ». C'est-à-dire, dès que la loi est faite, le voleur est fait. Parce qu'il voit la loi et hop, il voit un moyen de la contourner. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire des lois, etc. Bien entendu, c'est tout à fait important. Il faut en même temps savoir que ça a des limites. C'est d'ailleurs pour ça que le souci éthique doit être constamment là. On retombe sur la discussion entre le christianisme et l'islam. Il y a ce problème en permanence de revenir au souci éthique pour ne pas se fier à une formule, même si elle a été bonne pendant un temps, parce qu'elle vieillisse, parce qu'elles sont imparfaites, et qu'il faut à un moment donné les remettre en cause.
Bastien vous a mis le Google Doc hein, pour évaluer pendant... Ah. N'hésitez pas. Merci.
Moi, je n'évalue pas. Hein.
Pardon, vous évaluez pas votre conférence, non?
Non, non, non. Effectivement.
C'est éthique, pour le coup. Je disais, c'est éthique, pour le coup, de ne pas auto-évaluer votre conférence.
Ben, oui, mais c'est toujours pareil. Dès que vous avez un jugement de valeur, la tendance va être assez naturelle d'essayer de l'influencer.
Oui, bien sûr. Ok. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions...